يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذه آخر جلسة وبها إن شاء الله نختم هذه المقدمة هذه الليلة، فنحتاج منكم قليلا من الصبر من أجل أن نستوفي الكتاب ونذهب، وقد غنمنا متن كامل تم شرحه والتعليق عليه، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. قول المؤلف هذا فيه بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة أن الله خلق الجنة وخلق لها أهلون، وأهل الجنة هم أهل الإيمان وحزبه المفلحين، وأهل الجنة يتفاضلون فيها بحسب أعمالهم، وأما دخول الجنة فبمحض رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني دخول الجنة برحمة الله والتفاضل فيها بحسب الأعمال. ما معنى التفاضل؟ يعني الدرجات، لأن الجنة فيها درجات، كما قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. والجنة خلقها الله عز وجل وهي ثابتة ولا تفنى، مع وجود خلاف في هذا الكلام أن الجنة والنار تفنيان، لكن الجنة خلقها الله سبحانه وتعالى ورآها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ودخل فيها، دخل فيها لما أسري به ليلة الإسراء والمعراج. ثم قال: في هذه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها من النعيم والملذات والحور العين والمآكل والمشارب وغير ذلك، فيها يعني شيء لا يوصف من القصور والبيوت وغير ذلك، ولكن هناك نعيم، لكن هناك نعيم، وهناك يعني الله عز وجل أعطى المؤمنين فيه هو النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. أكبر نعيم يحصل عليه أهل الجنة هو النظر إلى وجهه، إلى وجهه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني يوم القيامة يكون الناس المؤمنين وجوههم نظرة، يعني بهية وجميلة، إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، يعني ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. وكما جاء في الآية الأخرى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي هذه الزيادة في الجنة؟ هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل في رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد. نوبل شيخ نواز كالله لبخزيرف a donc commencé cette assise en annonçant que c'était là la dernière assise dans l'étude de cette épître correspondant à l'introduction de la Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, et que donc on allait essayer de clôturer cette étude-là. Et il en a donc fait appel à notre endurance et à notre persévérance afin que nous puissions arriver à cet objectif. Puis il a commenté la parole de l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a dit: et Allah, gloire et pureté à lui, a créé le paradis et l'a préparé comme demeure éternelle à l'attention de ses alliés, et il les y a honorés par le fait de regarder sa noble face. En commentaire, le cheikh a dit, c'est là donc un exposé de la croyance des adeptes de la sunna et du groupe uni sur la vérité. Ils ne sont autres que le groupe sauvé et la faction secourue. Il faut donc savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé le paradis, comme cela a été mentionné ici, et qu'il a également créé l'enfer. Il a créé le paradis et il a créé également ses habitants. Et il faut savoir que l'accès au paradis ne peut se faire que par pure miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant les différents degrés et les différents paliers du paradis, ils dépendent des œuvres de ses habitants. Puis le shaykh, dans ce registre-là, a fait mention de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans surat al-Isra, le verset numéro 21, « Envor kayfa faddalna ba'bahum ala ba'd, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. » Regarde comment nous favorisons certains sur d'autres, et dans l'au-delà, il y a des rangs plus élevés et plus privilégiés. Donc cette disparité en termes de rang et de degré est liée à la disparité qu'il peut y avoir dans les œuvres, dans les différentes œuvres accomplies au préalable par les habitants du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu le paradis et il y est même entré, comme cela a été rapporté dans le récit du voyage et de l'ascension nocturne. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a parlé du paradis, il a dit qu'il s'y trouve ce que aucun œil n'a vu et ce que aucune oreille n'a entendu et ce qui n'a effrôlé l'esprit d'aucun être humain. Il s'y trouve donc des choses indescriptibles en termes de demeure et de palais et de bien d'autres choses encore. Sachant que le plus grand des bienfaits trouvant au paradis, c'est le fait que ses habitants aient le privilège de voir la noble face d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela est établi dans un certain nombre de textes, notamment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la traduction approximative du sens est la suivante: ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Ainsi que cet autre verset dont la traduction approximative du sens est la suivante: à l'attention de ceux qui auront fait preuve d'excellence, il y aura la plus grande des récompenses et un surplus, le surplus désignant le fait de voir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala.
قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله وهي التي أهبط منها آدم أو أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. المؤلف رحمه الله يلمح على أنه يوجد خلاف في هذه المسألة، هل هي الجنة التي أهبط الله عز وجل منها آدم، هل هي الجنة التي سيدخلها الناس، هل هي الجنة نفسها، أم هي جنة الخلد الموجودة في الأرض؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، ولكن المؤلف وكذلك المشايخ كشيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله يرجح على أنها هي الجنة المعروفة التي أهبط الله عز وجل منها آدم بسبب المعصية، بسبب معصيته التي وقع فيها. هذا القول هو الراجح عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء. ثم قال المؤلف: وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله. فكما أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وأعدها لأوليائه، كذلك بالمقابل خلق النار وأعدها لأعدائه، للذين ألحدوا في كتاب الله وفي رسوله وفي آياته. وكما أن أعظم نعيم في الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى، كذلك من أعظم أنواع العذاب في النار هو عدم رؤية الله سبحانه وتعالى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فيحجب أهل النفاق وأهل الكفر عن رؤية الله سبحانه وتعالى. وأهل النار على قسمين، أهل النار على قسمين، قسم خالد مخلد فيها لا يحيون فيها ولا يموتون، يعذبون باستمرار، وهم أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي. هؤلاء خالدون مخلدون في النار لا يموتون ويعذبون، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقسم آخر هم عصاة الموحدين، هؤلاء إن دخلوا كما قلنا هم تحت المشيئة، فإن أدخلهم الله عز وجل إلى النار يعذبون فيها بقدر المعصية التي ارتكبوها كما يشاء ربنا ويريد، ثم يشفع فيهم أهل الشفاعة فيدخلون إلى الجنة، فيدخلون إلى الجنة. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان، الجنة والنار مخلوقتان، لا كما تقول الجهمية المعطلة الذين قالوا الآن لا توجد نار بعدم وجود الجنة والنار. الجهمية المعطلة قالوا أن الجنة والنار الآن غير موجودة، متى توجد؟ إذا جاء وقت الحساب، فبعد ذلك تفتح الجنة أبوابها أو تخلق الجنة وتخلق النار. وهذا القول طبعا قول فاسد وغير صحيح ولا دليل عليه، لأن الله عز وجل ذكر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ودخلها، كذلك رأى النار ودخلها ورأى أهلها يعذبون فيها، فهي موجودة ومخلوقة. فكلام هؤلاء الجهمية غير صحيح وكلام فاسد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجهه الكريم. نعم.
L'auteur, rahmatullahi alayh, continue en disant: c'est de ce paradis qu'il précipita sur la terre Adam alayhi salam, son prophète et son calife, en vertu et son calife sur terre, en vertu d'un arrêt de sa prédestination éternelle, qu'il a créé l'enfer, l'a réservé comme éternel de demeure à ceux qui ne croient point en lui et qui s'écartent de la voie de droiture quand il s'agit de ses signes et de ses livres et de ses prophètes, et les a privés de sa contemplation. Le cheikh wafaqahullah ta'ala explique ce passage en disant que l'auteur rahimahullah ta'ala il laisse sous-entendre ici qu'il y a une divergence entre les gens de science concernant ce paradis. Le paradis duquel est descendu Adam alayhi salam, est-ce le même paradis qui est promis aux croyants ou c'est quelque chose de différent? L'auteur Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah ta'ala et le professeur Cheikh Fawaz, Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala, établissent tous deux qu'il s'agit du même paradis, qu'il s'agit du même paradis, et ceci est la parole de la majorité, Jumhur al-Ulama, la majorité des savants établissent ce verdict sur ce point là c'est-à-dire que le paradis duquel est descendu Adam alayhi salam suite au péché qu'il a commis est le même paradis qui est promis aux croyants dans la vie dernière. Et comme il a promis le paradis à ses alliés, il a également menacé ses ennemis par l'enfer. Et il n'y a pas plus grand châtiment que le fait que les kuffars, les mécréants, vont être voilés de la vision d'Allah. Comme Allah a dit à ce propos dans la sourate Al-Mutaffifin, la sourate 83, les fraudeurs dans le verset numéro 15, qu'ils prennent garde, en vérité ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Qu'ils prennent garde, en vérité ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Et les adeptes de l'enfer sont au nombre, leur sorte, leur catégorie sont au nombre de deux. Donc il y a ceux qui entreront en enfer et n'en sortiront jamais. فَهُمْ خَالِدُونَ مُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ. C'est-à-dire qu'ils vont rester pour y demeurer de manière éternelle et en sortiront jamais. Qui sont ces gens-là? Ce sont les adeptes de la mécréance majeure, les adeptes du polythéisme majeur et également les adeptes de l'hypocrisie dans la croyance. Nifaq al-i'tiqadi. Comme Allah dit à ce propos dans le Coran, كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on leur changera, à chaque fois que leur peau brûlera, on leur en donnera une autre. C'est le verset 56 de la sourate numéro 4 An-Nisa. Les femmes, certes ceux qui ne croient pas à nos versets, le Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. Ce qui montre le caractère continu et éternel de ce châtiment pour cette catégorie de personnes. Et on a également l'enfer attribué à Usat al-Muwahidin, c'est-à-dire ce sont des gens qui avaient le tawhid, qui unifiaient Allah, mais qui ont commis différents péchés. Quant à cela, ils sortiront par la suite de l'enfer et n'y demeureront pas éternellement. Telle est la croyance des adeptes de la sunna, le fait que le paradis et l'enfer sont deux créatures qu'Allah a créées et qui sont existantes au moment où l'on parle, contrairement à la croyance des Jahmiyyah Mu'attila, donc la secte des Jahmiyyah, qui disent qu'elle n'existe pas, ni le paradis existe à l'heure actuelle, ni l'enfer, mais lorsque le jugement sera établi à la résurrection, Allah créera à ce moment-là le paradis et créera également l'enfer. Cette parole est corrompue et fausse, car il n'y a pas de preuve qui soutient cela. Les preuves sont même contraires à ceci, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu et est entré au paradis, tout comme il a vu, et il est entré en enfer, et il a vu donc le châtiment.
قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله أن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. في هذا أو في هذه الجملة يتحدث المؤلف عن صفة من صفات الله عز وجل وهي صفة فعلية، صفة المجيء، يعني يجيء ربنا. المجيء هذا ثابت في القرآن الكريم كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، فهو سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة وينزل لفصل القضاء بين العباد، وهي كما قلنا من الصفات الفعلية، وهي صفة لا تشبيه فيها ولا تمثيل ولا تعطيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. ثم أثبت المؤلف أيضا أو ذكر أن الناس يعرضون على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، فالمؤمن يكون يحاسبه الله سبحانه وتعالى حسابا يسيرا وهو العرض، وهو العرض كما جاء في الحديث إن الله يضع كنفه على عبد المؤمن، أي ستره يستر المؤمن، وأما المنافق فيفضح على الملأ، المنافق والكافر يفضح على الملأ. نعم. أما أهل الموبقات وأهل المعاصي هؤلاء تحصى عليهم وتوزن، فيكون شأنه كما قال تعالى فأما من ثقلت موازينه فأمه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، يعني يسقط على أم رأسه في نار جهنم، فأمه هاوية يعني هذا الأم هي أم الرأس، يسقط في نار جهنم على أم رأسه يعني بالمقلوب، هذا نوع من العذاب، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فالكافر طبعا إلى النار وبئس القرار مباشرة، والمؤمن يكون حسابه يسير، يكون حسابه يسير.
Le cheikh a continué avec le passage dans lequel l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit Allah, béni et exalté, viendra, ainsi que les anges rangés en rang, afin que comparaissent les communautés, qu'elles soient jugées et ainsi puni ou récompensé. Il faut savoir qu'ici, l'auteur, à travers ce passage, il a affirmé un attribut parmi les attributs d'Allah qui sont liés à ses actes. Cet attribut, c'est l'attribut l'al-Maji, c'est-à-dire la venue. Et ce, afin d'entamer le jugement entre les serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala va venir afin d'entamer le jugement entre les serviteurs. Et il n'y a pas de similitude entre l'attribut de la venue, lorsqu'il est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, et l'attribut de la venue qui pourrait être attribué à ses créatures. Étant donné que, comme nous l'avons déjà vu, rien ne lui est similaire et il est celui qui entend et voit tout. Puis donc l'auteur a abordé la question du jugement. Étant donné qu'il a dit qu'Allah lui fasse miséricorde afin que comparaissent les communautés, qu'elles soient jugées et ainsi punies ou récompensées. Puis le shir d'expliquer la différence de jugement qu'il va y avoir entre le croyant et l'hypocrite. Allah subhanahu wa ta'ala va cacher les faux pas et péchés du croyant, alors que l'hypocrite, ses mauvaises actions seront affichées au grand jour et aux yeux de tous. Puis le cheikh a fait mention de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, surat al-Qari'ah, la traduction approximative du sens, et quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère destination est un abîme très profond. Shir a expliqué ici que cette expression, que ces termes-là, Ummuhu Hawiya, donc qui a été traduit ici par sa mère ou destination, en vérité, ça viserait le fait que donc donc celui qui verrait donc sa balance légère, il se verrait renversé sur la tête dans un abîme très profond. Donc dans la suite de la traduction approximative du sens, nous lisons: et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Donc nous voyons ici la différence de jugement, que ce jugement vise le croyant ou qu'il vise le mécréant. Le mécréant subira un jugement dur, alors que le croyant vivra un jugement qui sera facilité.
قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. في هذه الجملة يثبت المؤلف الميزان، والميزان ثابت في القرآن الكريم كما ذكرنا الآية في سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ووردت أيضا آيات أخرى في الميزان، وله كفتان ولسان توزن فيه الأعمال. هذا الميزان اختلف العلماء، هل يوزن فيه الإنسان أو يوزن فقط العمل أو يوزن فقط الصحيفة، أو القول الثاني أو يوزن الإنسان والعمل والصحيفة. العلماء اختلفوا في هذه المسألة، والراجح أنه يوزن العامل والصحيفة والعمل. والدليل على ذلك قصة ابن مسعود لما صعد على شجرة فتمايلت به الريح، فرأوا أصحابه رأوا ساق ابن مسعود وكانت ضعيفة، فقالوا ضحكوا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: مما تعجبون؟ قالوا: نعجب من دقة ساقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلهو أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد، يعني ابن مسعود وصحيفته وعمله، يعني يوزن الشخص في الميزان، يوزن الشخص وعمله وصحيفته في الميزان. هذا هو القول الراجح. أهل الإيمان لا يشكون ولا يترددون ولا يتصورون كيف يوزن العمل، هل ييسم هل الله أعلم هذه الكيفية لا نعلم عنها لكن نؤمن أنه يوزن العامل والعمل والصحيفة.
Donc le cheikh continue donc à expliquer le passage suivant concernant les balances ou la balance à la résurrection qui va peser les actes. Comme ce que l'on vient de voir à l'instant dans les versets 6 à 11 de la sourate 101, sourate Al-Qari'a, le fracas. Je répète, quant à celui, le sens rapproché des versets, quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa destination est un abîme très profond, et qui te dira ce que c'est un feu ardent. Donc, les gens de la Sunna affirment, croient fermement, qu'il y aura donc balance à la résurrection qui pèsera, qui est établie de deux plateaux, qui fait atteindre, voilà, houlissan, c'est-à-dire qu'il y a une langue également, et dans laquelle, ou avec laquelle, les actes seront pesés. Et ils ont divergé sur deux paroles. Est-ce que c'est la première, est-ce que c'est la personne qui sera pesée, ou alors ce sera l'acte, ou alors ce sera sahifa, c'est-à-dire la page ou le scribe dans lequel les bons actes et les mauvais actes sont inscrits. La deuxième parole qui cite la personne, l'acte et la page ou le scribe, c'est-à-dire que les trois sont ou peuvent être pesés. Et le cheikh dit que la parole prépondérante à ce propos, c'est que les trois sont ou peuvent être pesés, conformément à ce qui est rapporté de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, qu'une fois il était un petit peu en hauteur et que un vent a fait bouger son vêtement, et les compagnons ont rigolé en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son propos, et il leur a demandé pourquoi vous riez. Ils ont dit, nous sommes étonnés de la maigreur ou du caractère mince des jambes ou bien des tibias de Saq de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes elles sont plus lourdes dans la balance que à la résurrection que la montagne de Uhud, ce qui montre donc que la personne également peut ou va être pesée, etc. Ensuite, on ne se pose pas la question, Ahl Sunna ne se pose pas la question, comment est-ce qu'on va peser les actes? Est-ce que les actes vont être transformés en quelque chose qui est pesable? Est-ce que ça va avoir un corps? Est-ce que ça va se transformer en quelque chose de solide, de palpable, pour pouvoir le peser? On ne se pose pas cette question, sachant que Allah fera en sorte de peser ces différentes choses sans forcément connaître que l'on connaisse le comment.
قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. في هذه الجملة يثبت المؤلف علينا وعليه رحمة الله ويصف ما يحصل يوم القيامة وأن الناس يأخذون صحائفهم صحائف أعمالهم صحائف أعمالهم، وهذا ثابت في القرآن الكريم. وإذا الصحف نشرت يعني تطايرت بأيدي أصحابها، فآخذ كتابه بيمينه وداخل الجنة، وآخذ كتابه بشماله وداخل إلى النار. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيفرح ويقول هاؤم اقرأوا كتابية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. وفي آية أخرى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فهو يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره ويدخل إلى النار. والمقصود من هذه الصحف إثبات العمل، وأن الناس يجازون على أعمالهم لئلا يحتج أحد ويقول يا رب قد ظلمتني أو كذا، ما أحد يستطيع، لكن من باب إقامة الحج عليهم، في اليوم الفلاني فعلت كذا، في اليوم الفلاني صنعت كذا، فهذا كله مكتوب في هذه الصحائف.
الشيخ الله البريزير va continuer en commentant la parole de l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a dit leurs registres, c'est-à-dire les registres des serviteurs leur seront présentés. Quant à ceux dont les registres leur seront présentés par la droite, ils connaîtront un jugement facilité. Quant à ceux dont les registres leur seront présentés dans leur dos, ils se dirigeront vers la fournaise. Donc on retrouve dans ce passage l'affirmation du fait que les gens vont se saisir de leurs registres. Ces registres qui contiennent la mention et l'énumération exhaustive de leurs œuvres. Et on retrouve l'affirmation de cela dans bon nombre de textes du Coran, notamment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont la traduction approximative du sens est la suivante: et lorsque les registres seront déployés. Et on retrouve donc le fait que, comme l'a dit l'auteur, certaines gens se verront présenter leurs registres par la droite, et que d'autres les verront présenter donc dans leur dos, dans un passage coranique. Et dans un autre passage, nous trouvons qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira: tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouera d'une vie agréable dans un jardin haut placé dont les fruits sont à portée de la main. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Et on retrouve donc le deuxième cas de figure: quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira: hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive, ma fortune ne m'a servi en rien. Jusqu'à donc la fin des versets concernant ce sujet dans la sourate Al-Haqqa. Donc nous trouvons donc dans certains versets que les registres de ceux qui sont voués à la perdition leur seront présentés dans leur dos, et dans cet autre verset nous apprenons qu'ils s'en saisiront de leur main gauche. Et les serviteurs seront donc jugés, comme nous avons pu nous en rendre compte, selon leurs œuvres. Et c'est ainsi qu'aucun ne subira une quelconque injustice, car chacun sera jugé conformément à ce qu'il aura présenté comme œuvre.
قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. هذا يريد أن يثبت موضوع الصراط، وتحدثنا عن الصراط وقلنا أنه ينقسم إلى قسمين: حسي ومعنوي. والحديث هنا عن الصراط الحسي، فهو أدق من الشعر وأحد من السيف وأروغ من الثعلب كما وردت بعض الروايات. والناس يعبرون على هذا الصراط، والصراط هذا منصوب على متن جهنم، ويجوزون على هذا الصراط بقدر أعمالهم. فمنهم من يكون على سرعة الريح، ومنهم من يكون كسرعة البرق، ومنهم من يكون على سرعة الخيل، ومنهم من يجري، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من يهوي في نار جهنم، في نار جهنم. فناج مسلم وناج مخدوش وملقى في نار جهنم أو مكردس في نار جهنم.
ترجم تفضل. أروغ من الثعلب
رواية، يعني يلعب.
Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, cite que le sirat existe réellement, que son franchissement par les hommes, par les êtres humains, est fonction de leurs œuvres. En effet, les uns se sauvent de l'enfer, Jahannam, en luttant de vitesse sur ce pont, et les autres, ils sont précipités par le poids de leur faute. Donc ici, il y a l'affirmation des sirat. Le sirat, on en a déjà parlé auparavant, dans le cours précédent, on a dit qu'il y a deux sortes. Il y a le sirat de manière concrète et de manière abstraite, il y a le sens réel, le sens figuré, qu'on a déjà expliqué auparavant. Dans certains récits, il est cité qu'il est plus précis ou plus infime qu'un cheveu, et plus brûlant, plus tranchant je veux dire, qu'une épée, et d'autres caractéristiques également qui sont citées à ce propos. Et les gens vont passer dessus à différentes vitesses, en commençant par la vitesse de l'éclair et en terminant par, en descendant chaque fois dans les vitesses, jusqu'à quelqu'un qui rampe, yazhafu zahfan, d'autres qui marchent, d'autres qui courent, etc. Et certains qui ne vont pas le traverser, mais qui vont tomber dans l'enfer.
قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. هنا مسألة هي مسألة الحوض والإيمان به من معتقد أهل السنة والجماعة. والحوض هو الذي ينزل فيه الكوثر كما قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر أي نهر في الجنة وهو مادة الحوض هذا. وتواترت الأحاديث بصفة الحوض هذا حوض مسيرة الشهر ماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء وكيزانه يعني الأباريق كعدد نجوم السماء من شرب منه لم يظمأ أبدا. كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشربون إلا من أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يذادون عن هذا الحوض. هناك ملائكة تقف على الحوض فإذا أتوا يريدون أن يشربوا تمنعهم الملائكة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي وفي رواية أصيحابي أصيحابي فتقول الملائكة لا تدري ماذا أحدثوا بعدك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير أو بدل بعدي. هذا النص يحثنا على التمسك بالسنة لأن صاحب السنة هو الذي يشرب. أما المبتدع أصحاب الأحزاب والمناهج والجماعات الذين بدلوا وغيروا ولم يرضوا بكتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يقولوها بألسنتهم وإن ادعوا أنهم يدافعون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن أفعالهم تدل على هذا فهؤلاء يذادون يعني يطردون عن هذا الحوض لا يشربون منه. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على السنة وأن يرزقنا أن نشرب من هذا الحوض.
Puis le Cheikh, hafidahullah, a commenté la parole de l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a dit « La foi relative au bassin du messager d'Allah, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue. Les membres de sa communauté s'y présenteront. Ceux qui en boiront ne seront plus jamais assoiffés. Et son accès sera refusé à ceux qui auront modifié et altéré la religion. » Il faut savoir donc que ce bassin, le Hawd, sa source c'est le Kauthar. Et ce bassin a été décrit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment dans le hadith mentionné par le shaykh, qu'Allah le préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mon bassin, ou plutôt la largeur de mon bassin, est équivalente à un mois de marche. Son eau est plus blanche que le lait, et son odeur est plus suave que le musc. »
Abariq, les frères, comment on dit abariq?
Cruche.
Ibriq.
Cruche.
Le français.
Ah, français.
C'est carafe. Énorme. Ces carafes sont comme les étoiles au ciel. Celui qui en boira n'aura plus jamais soif. Donc telle est la description faite par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de son bassin. Le cheikh de continuer en disant que tous les membres de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam en boiront, sauf ceux qui auront innové dans la religion. En effet, il y aura des anges qui seront postés devant le bassin et qui vont empêcher son accès à certaines personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va alors s'écrier « Ce sont mes compagnons, ce sont mes compagnons !» Et il leur sera dit, ou il lui sera dit plutôt « Tu ne sais pas ce qu'ils ont instauré dans ta religion après toi. » Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira « Suhqan, suhqan !»
Éloignement,
éloignement. Éloignement, éloignement. pour ceux qui auront modifié et altéré la religion après moi. Donc on trouve dans ce texte-là une incitation forte au fait de rester fidèle à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de s'y cramponner du fait que les adeptes de la sunna boiront de ce bassin alors que les innovateurs n'en boiront pas, même s'ils peuvent prétendre défendre et être fidèles à la sunna.
قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها. قلنا في المقدمة لما ذكر المؤلف رحمه الله في مقدمة هذا المتن ذكر أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب اعتقاد بالقلب، وقلنا أنه سيكمل أو سيشرح هذا بشكل أوسع. هنا شرحه بخمسة شروط أو، فقال الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، فلا بد من توفر هذه الشروط الخمسة أو الجمل الخمسة. وذكرنا في المقابل الفرق التي خالفت في هذا الباب، منهم الجهمية، آسف، الكرامية والمعطلة والأشاعرة ومرجئة المرجئة الغلاة ومرجئة الفقهاء. ذكرنا كل طائفة ماذا قالت ماذا قالت. نعم.
Ensuite, l'auteur, rahmatullahi alayh, continue en disant « Il faut croire que la foi, l'iman, consiste en parole, en dévotion, ikhlas, croyance avec le cœur, et en acte des membres. « Wanna l'iman a qawlun bil lisan wa ikhlasun bil qalb » et en acte des membres, qu'elle augmente ou diminue en proportion des œuvres, a'mal. Donc ici, il dit, on a parlé auparavant sur l'iman et on a dit que par la suite, il allait y avoir des détails plus pertinents à ce propos. Et donc on arrive justement à ce passage où l'auteur rahimahullah ta'ala s'étale un peu plus sur ce sujet en disant que l'iman, la croyance, la foi, c'est aussi bien croyance dans le cœur que parole avec la langue, qu'acte avec les membres. Ça augmente avec l'obéissance et ça baisse avec la désobéissance. Donc il a cité ces cinq aspects qui rejoignent, qui définissent de manière intégrale, de manière exhaustive, la croyance des gens de la sunna concernant ce point important qui est l'iman. Et donc on a cité également auparavant les sectes qui ont une croyance erronée à ce propos concernant l'iman. On avait cité al-Jahmiyyah, qui sont donc des Mu'attila et ceux qui les rejoignent à ce propos. On avait cité également al-Karramiyyah. On avait cité al-Murji'a al-Ghulat, c'est-à-dire ceux qui sont extrémistes à ce propos. Et on a cité Murji'at al-Fuqaha, qui sont donc moindre à ce propos. Et l'Asha'ira également.
قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله فيكون فيها النقص وبها الزيادة ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل ولا قول ولا عمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. في هذه الجملة ذكر المؤلف علينا وعليه رحمة الله أن اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح داخلة في مسمى الأعمال، وذكرنا هذا وقلنا الدليل على ذلك وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقلنا المقصود بالإيمان هنا إيش؟ الصلاة. فأطلق الله عز وجل عليها إيش؟ العمل. فالعمل داخل في مسمى الإيمان. هذا أمر. الأمر الثاني أن الإيمان يزيد وينقص. يزيد بماذا؟ بالطاعة، وينقص بالمعصية. وهذا موجود في الكتاب والسنة، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. قال إيش؟ وذلك أضعف الإيمان، معنى أن الإيمان يكون ضعيف فيزيد تارة وينقص بحسب الطاعة والمعصية. نعم. ثم بعد ذلك بين التلازم بين القول والعمل والنية، هذه كلها متلازمة لأنه لا قول ولا عمل إلا بوجود نية، وكذلك لا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وإلا سيطرد عن الحوض ولا يشرب ولا يستطيع أن يشرب منه، فلا بد من التزام السنة.
Une chair, Allah le préserve, a commenté la parole de l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a dit: c'est ainsi qu'en fonction de tes œuvres interviennent l'augmentation et la diminution de la foi. Les paroles de foi ne sont complètes qu'accompagnées d'œuvres, et les paroles et œuvres ne peuvent être complètes qu'accompagnées de sincérité, et tout cela ne peut être complet qu'en conformité à la sunna. Donc le shir a résumé ici que l'auteur a fait mention des trois composantes de la définition de la foi, à savoir donc la croyance et la conviction du cœur, la parole de la langue et les actes accomplis avec les membres. Et nous avions déjà eu l'occasion de voir que les œuvres font partie intégrante de la définition de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre: Allah n'est pas tel qu'il rende vaine votre foi. Sachant que le terme foi ici, iman, il vise la prière, comme le shir a eu l'occasion de l'expliquer et de le développer précédemment. Donc on se rend compte ici qu'un acte a été appelé foi, iman, ce qui prouve, ou ce qui fait partie des preuves appuyant le fait que les œuvres, les actes font partie intégrante de la définition de la foi. Également, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: les croyants sont uniquement ceux qui, lorsque Allah est mentionné, leur cœur frémisse. Et lorsque ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Donc, on se rend compte ici que la foi augmente, comme cela donc a été abordé précédemment. Et également, le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui parmi vous voit un acte blâmable le change avec sa main, et s'il ne le peut pas avec sa langue, et s'il ne le peut pas alors avec son cœur, et c'est là le plus bas degré de la foi. Donc cela appuie le fait que la foi augmente et en vienne également à diminuer. Puis donc le shir a expliqué que l'auteur a également attiré l'attention vers le fait que tout cela doit être accompagné de sincérité, et que l'œuvre, ou que tout cela, pour que cela soit valable, il faut que ce soit conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Qala al-muallif alayna wa alayhi rahmatullah وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، هذا هو قول أهل السنة والجماعة، لا يكفرون أي أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وهم وسط، أهل السنة وسط بين من؟ بين الخوارج وبين المرجئة. هؤلاء الخوارج يكفرون بالذنب، الخوارج مثل من؟ مثل جماعة الإخوان المسلمين، الدواعش، هؤلاء خوارج يكفرون بالذنب. والمرجئة، المرجئة لا يضر مع الطاعة معصية، مدامك تطيع الله سبحانه وتعالى افعل ما تشاء. لكن أهل السنة والجماعة وسط، يخافون من الذنوب ومن الكبائر، ولكن لا يكفرون صاحبها، وإن مات على ذلك، مات على هذه الكبيرة، فيقولون هو تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل غفر له فذلك برحمته سبحانه وتعالى، وإن شاء عذبه عذبه بعدله. فهم وسط بين الخوارج وبين المرجئة، يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، هذا في الدنيا يحكمون عليه، مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، وفي الآخرة كما قلنا تحت المشيئة. نعم
شيخ، لو تعيد الكلام في المرجئة لأنك أخطأت في الكلام، لا يضر مع الطاعة معصية، ماذا يقول المرجئة؟ لا يضر مع ماذا؟
المرجئة أيش يقولون؟ يقولون ماذا؟ لا يضر مع الذنب، مع الإيمان ذنب، مع الإيمان ذنب، ونفسه لا يضر مع الإيمان ذنب. يعني ما دامك مؤمن تفعل أي شيء.
Donc le cheikh, wafaqahu Allah ta'ala, continue l'explication. L'auteur, rahimahullah ta'ala, dit que le péché dhamb ne suffit point à rendre les musulmans infidèles. Que le péché dhamb ne suffit point à rendre les musulmans infidèles, mécréants. Donc ici, un point important qui est le fait de ne pas passer au takfir, c'est-à-dire le fait de faire sortir un adepte de l'islam, un musulman, de la sphère de l'islam, à travers un péché qu'il aurait commis. Tant qu'il ne se le rend pas licite, tant qu'il n'applique pas ce qu'on appelle l'istihlal, c'est-à-dire quelque chose qui est haram, il le transforme en halal où il se le rend licite. Et on a donc deux fractions, extrémistes et laxistes à ce propos, les gens de la sunna au milieu. On a les khawarij qui rendent mécréants à travers la mise en pratique d'un péché ou d'un grand péché, takfir bidham. Donc ça c'est les khawarij. Et parmi eux, on peut compter les frères musulmans qui applique cette règle, ou les Dawa'ish, donc les adeptes de Da'ish également, celui qui commet un grand péché, il est sorti de la sphère de l'islam pour eux. Et on a le Murji'a de l'autre côté, qu'ils disent que tant que la personne elle est croyante, même si elle commet des péchés, etc., ça n'aura aucune répercussion sur la perfection de son iman, de sa foi. Donc, les gens de la sunna sont au milieu, et ne rendent pas mécréant un musulman à travers un péché qu'il a commis, tant qu'il ne se le rend pas halal, tant qu'il ne fait pas l'istihlal, se le rendre licite. Et malgré cela, ils disent que celui qui commet un grand péché, il est mu'minun bi iman et fasiqun bi kabirati. Il est croyant, car il reste dans la sphère de l'islam, c'est un mu'min, mais il est fasiqun bi kabirati. Il est considéré quand même comme un débauché suite à le grand péché qu'il a mis en pratique ou la désobéissance qu'il a mise en œuvre.
قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. يتحدث المؤلف عن الشهادة في سبيل الله وعن وضع الشهيد يوم القيامة وأنهم يرزقون وأنهم أحياء عند الله سبحانه وتعالى وأن لهم أجر عظيم جدا وأن الشهيد يشفع في أهله في 70 من أهله وأنه يزوج من 72 من الحور العين وإلى آخر الصفات التي يتصف بها أهل الشهادة. والشهداء على قسمين, شهداء على قسمين, شهيد المعركة, شهيد المعركة هذا يغسل, لا يغسل ولا يكفن, إنما يدفن بثيابه, هذا شهيد المعركة. القسم الثاني, من هو في حكم الشهيد أو أطلق عليه شهيد ولكنه يأخذ أحكام الدنيا كالغريق والمبطون والذي يموت في الحج إلى آخره, هذا يطلق عليه شهيد, يطلق عليه شهيد, لكن يغسل ويكفن ويصلى عليه, تجري عليه الأحكام الدنيوية, تجري عليه الأحكام الدنيوية. هذا بالنسبة لموضوع الشهادة. وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون, لأن الجزاء من جنس العمل, فكما أنهم أحسنوا في الدنيا جازاهم الله عز وجل بالعاقبة الطيبة والجزاء الحسن, وكذلك أهل الشقاوة كما أنهم عصوا الله سبحانه وتعالى في الدنيا كان الجزاء من جنس العمل فهم يعذبون, كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم.
L'auteur, comme on lui fasse miséricorde, a dit « Les martyrs sont vivants auprès de leur Seigneur et sont pourvus en subsistance. Les âmes des bienheureux connaîtront les délices jusqu'au jour où elles seront ressuscitées, tandis que les âmes des malheureux seront châtiées jusqu'au jour de la rétribution. » Donc ici, le cas du martyr est abordé. Et on peut donc se rendre compte que les martyrs sont vivants auprès de leur Seigneur et qu'ils sont pourvus en subsistance. et d'autres mérites les concernant ont été mentionnés, notamment le fait que le droit leur soit accordé d'intercéder en faveur de 70 membres de leur famille.
72.
Et également le fait qu'ils soient mariés à 72 houris au paradis. Puis le shir d'expliquer que lorsqu'on parle de martyrs, cela peut viser deux catégories de personnes. Les martyrs, ceux qui sont morts dans des batailles, et ceux qui, par exemple, ont été qualifiés de martyrs sans pour autant être morts lors d'une bataille. Les martyrs morts donc dans une bataille ne sont pas lavés. Leur corps n'est pas introduit dans un linceul, mais ils sont plutôt enterrés dans leurs vêtements. Tandis que ceux qui ont été qualifiés de martyrs, mais qui ne font pas partie de cette première catégorie, comme c'est le cas de celui qui est mort noyé ou de celui qui est mort au pèlerinage, à titre d'exemple, ceux-là sont lavés, leur corps est introduit dans un linceul, et on accomplit la prière mortuaire sur eux, et donc on se comporte avec eux comme on se comporte avec le restant des défunts. Puis donc l'auteur a dit, les âmes des bienheureux connaîtront les délices jusqu'au jour où elles seront ressuscitées, tandis que les âmes des malheureux seront châtiées jusqu'au jour de la rétribution. Et cela est affirmé dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La traduction approximative du sens est le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit faites entrer les gens de Pharaon au plus dur des châtiments. Sachant que ce qui est donc visé ici, c'est ce châtiment dans le monde intermédiaire.
قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم. من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون أن هناك من يقوم بتسيير الحسنات والسيئات، وهذا صريح، جاء صريحا في القرآن الكريم كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وكما قال تعالى وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهؤلاء مهمتهم أنهم يسجلون ويكتبون كل ما يتعلق بالحسنات والسيئات. نعم.
Donc ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala cite le fait qu'il y a des anges qui notent ce que les êtres humains font et mettent en pratique. Et ceci est cité textuellement dans plusieurs passages du Coran, à titre d'exemple les versets 10, 11 et 12. De la sourate 82, l'infitar, la rupture. Donc, alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes qui savent ce que vous faites. Et vous avez également la même chose dans un autre verset dans sourate Qaf. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Donc le verset 18 de la sourate 50, Qaf. Le sens, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire.
ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه شيء وأن علمه محيط بكل شيء، كما قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أهل الإيمان يؤمنون بهذا الشيء ولا يشكون لحظة فيها أن جميع الأشياء لا تعزب عن الله عز وجل مثقال ذرة. وأما أهل النفاق وأهل الكفر فيشكون في ذلك ويترددون.
Puis l'auteur a dit et il n'y a rien de tout cela dont Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas le savoir ou dont leur Seigneur n'est pas le savoir. Donc le cheikh expliquait qu'il n'y a rien qui est caché au savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans les cieux ou sur la terre, que cela soit quelque chose de grand ou d'insignifiant. Et il a cité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la traduction approximative du sens et la suivante: est auprès de lui, et auprès de lui résident les clés de ce qui est caché, nul n'en a le savoir si ce n'est lui. Et il a le savoir de ce qu'il y a sur la terre ferme et dans la mer, et il n'est pas une feuille qui tombe sans qu'il n'en ait le savoir, ni même une graine dans les ténèbres de la terre, ni même quoi que ce soit humide ou sec, sans que cela ne soit consigné dans un registre manifeste. Donc les croyants ont foi en cela et ils en ont la conviction et ne doutent en aucun cas de tout cela, et ce sont plutôt donc les mécréants et les hypocrites qui en ont ou qui souffrent de ou qui doutent à ce sujet.
وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون أن لكل ملك مهمة معينة، ومن مهام الملائكة قبض الأرواح، وأن هناك ملك متخصص في هذا الشيء يقبض الأرواح، وأن مع هذا الملك ملائكة وأعوان يساعدونه في قبض الأرواح، ولا يمكن أن يقبض أي روح إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وكما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فهذه نسبة الوفاء إلى ملك الموت هذه لا تصح، إنما أن ينسب قبض الأرواح إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الملك لا يمكن أن يقبض أي روح إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
Donc ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala continue en disant que l'ange de la mort prend possession des âmes par l'ordre de son Seigneur. Donc on a vu que les anges ont différents rôles à respecter. Parmi ceux-là, ceux qui s'occupent de saisir les âmes. Il y a un ange bien spécifique, Malak al-Maut, qui a pour fonction de saisir les âmes, et d'autres anges qui sont en sa compagnie et qui l'aident à qabd al-arwah, c'est-à-dire à saisir les différentes âmes. Il ne peut saisir une âme sans la permission et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Conformément au verset 42 dans la sourate Az-Zumar, la sourate numéro 39, les groupes, le sens: Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Et conformément également au verset numéro 60 qu'il y a dans la sourate 6, l'An'am, les bestiaux, et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes. Il sait ce que vous avez acquis pendant le jour, puis il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé. Ensuite, c'est vers lui que sera votre retour, il vous informera de ce que vous faisiez. Voilà de manière brève ce qui est rapporté concernant cette saisie des âmes par un ange bien spécifique et d'autres anges qui lui apportent soutien et aide.
وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبين المؤلف علينا وعليه رحمة الله معتقد أهل السنة والجماعة أن خير القرون وأفضل القرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم القرن الأول ثم الثاني ثم الثالث، هذه القرون هي أفضل القرون. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني الذي هو فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين، أو ثلاثة، ثم يجيء قوم ينذرون أو ينذرون ولا يفون، يعني يتفوه ويقول بالنذر لكنه لا يفي، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن. هذه علامات يعني تقع في آخر الزمان، لأنهم بعيدين عهد عن أفضل القرون الذي هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذي يليه ثم الذي يليه. وجاء أيضا في القرآن الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه.
Puis le cheikh a commenté donc la parole de l'auteur, à laquelle il dit « Et la meilleure des générations, c'est la génération de ceux qui ont vu le messager d'Allah, qu'Allah le couvre de l'âge et le salut, et ont apporté foi en lui, puis la génération de ceux qui les ont suivis, suivie de la suivante. » Donc ici, l'auteur a exposé la croyance des adeptes de la sunna concernant ce sujet-là et le fait qu'ils font prévaloir en mérite les trois premières générations de l'islam, la première suivie de la seconde, elle-même suivie de la troisième. Comme cela a pu être dit par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux de ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. » Imran, le rapporteur de ce hadith, a dit « Et je ne sais pas si le messager d'Allah, qu'Allah le couvre d'éloge et le salut, a mentionné après sa génération, deux générations ou trois. Puis après cela viendront des gens qui prêteront serment et ne le respecteront pas, trahiront et ne seront pas dignes de confiance, témoigneront alors qu'il ne leur a pas été demandé de témoigner, et parmi eux apparaîtra l'obésité. » Donc c'est là un témoignage plutôt de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant la valeur et la prééminence de ces trois premières générations. Et nous pouvons retrouver cela dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, traduction approximative du sens, et les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires, et ceux qui les auront suivis dans l'excellence. Allah les agrée et il l'agrée. Naam, Allah les agrée et il l'agrée.
قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ذو النورين، وعلي ذو السبطين الحسن والحسين. فهؤلاء بهذا الترتيب، ومن خالف هذا الترتيب فهو مبتدع ضال كالرافضة الذين يفضلون علي بن أبي طالب على بقية الصحابة. لكن بإجماع أهل السنة والجماعة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة.
Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala cite que les meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les califes orthodoxes et bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Donc le cheikh cite que on classifie les quatre califes dans cet ordre-là: Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali. Et leur ordre dans le mérite, lequel est le meilleur d'entre eux, c'est comme l'ordre qu'ils ont eu dans la succession au niveau du califat: Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali. Abu Bakr al-Siddiq, donc le véridique, Omar al-Farouq, Uthman dhul Nourain, et Ali dhul Sibtain. Dhul Sibtain, c'est-à-dire de lui il y a eu donc les deux petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Hassan et al-Hussein. Celui qui contredit à ce propos, qui a une voix différente, une croyance différente, c'est un innovateur égaré. Celui qui contredit à ce propos, tel que Rafida par exemple, qui font prévaloir Ali sur tous les autres, Ali ibn Abi Talib sur tous les autres compagnons.
وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. قوله ألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. السبب في ذلك لأن الله رضي عنهم ورضوا عنه كما قال في الآية في ذلك، وكما نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، مد أحدهم ولا نصيفه. هذا يدل على فضل الصحابة لأنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم ناصروه وآزروه، ولأنهم تلقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وعاشوا في هذا الوقت، وأيضا فتحوا الأماكن والدول ونشروا الإسلام، ولهم فضائل عظيمة، ولهم فضائل عظيمة. وأيضا من معتقد أهل السنة والجماعة أن نمسك عما شجر بينهم من خلاف، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم لا يخلو حالهم من بين أمرين، إما مجتهد مصيب فله أجران، وإما مجتهد مخطئ فله أجر واحد، فهم يدورون بين الأجر وبين الأجرين، ونحن لا دخل لنا بهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، لا تسبوا أصحابي، ولأن الدخول والخوض في مثل هذه الأمور يؤدي إلى السب. ولذلك نرى الآن ما حصل بين معاوية وبين علي بن أبي طالب، فالذي يتدخل في هذا الموضوع ويتكلم فيه نرى بعضهم يسب من معاوية بن أبي طالب ويتكلم عليه ويطعن فيه، مع أنه كاتب الوحي، كاتب الوحي القرآن الكريم، فإذا طعن فيه أو طعن هؤلاء في معاوية كأنهم طعنوا في القرآن الكريم، وهذه زندقة. كذلك من يتعصب لمعاوية يسب من علي بن أبي طالب. فمنهج أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بينهم، وأنهم كلهم صحابة ترضى عنهم الله سبحانه وتعالى ورضي عنهم، ومنهم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة باسمه صراحة كعلي بن أبي طالب، ومنهم من له الفضل والسابق في الإسلام، فلا يجوز لأحد أن يتدخل بينهم ويظن بهم أحسن المذاهب، أحسن المذاهب ويدعو لهم، يدعو لهم. نعم.
في الأوتار comme lui fasse miséricorde a dit, et il convient qu'aucun des compagnons du messager, qu'Allah le couvre d'éloges et le salut, ne soit mentionné si ce n'est de la meilleure des manières. Et il convient également de s'abstenir de se prononcer à propos des différends qu'il y a pu y avoir entre eux. Et il convient également d'affirmer qu'ils sont les gens les plus en droit de se voir rechercher les meilleures des excuses et de bénéficier des meilleures opinions. Donc ici, dans ce passage, l'auteur a exposé la position des adeptes de la Sunna concernant les compagnons du messager d'Allah, qu'Allah le couvre d'éloges, et le salut. Et il faut savoir que la cause de cela, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés, et qu'ils l'ont agréé, comme nous avons pu le voir à la lumière du verset mentionné précédemment. De même, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'insultez pas mes compagnons, car si l'un d'entre vous dépensait en aumône l'équivalent du mont Uhud, cela n'équivaudrait pas à, à l'équivalent donc des deux mains réunies de l'un d'entre eux, ni même à la moitié de cela. » Également donc, le cheikh a insisté sur le fait qu'il convient de ne pas se prononcer concernant les différends qu'il y a pu avoir entre certains d'entre eux, car il faut garder à l'esprit et avoir la conviction qu'ils ont tous cherché à fournir des efforts afin d'atteindre la vérité, et qu'ainsi ils sont entre une et deux récompenses. S'ils ont fourni cet effort-là, s'ils ont vu juste, ils ont bénéficié de deux récompenses, et s'ils se sont trompés, ils bénéficient malgré tout d'une récompense, celle d'avoir fourni cet effort de réflexion afin d'arriver à la position conforme à la vérité. Il ne faut donc pas se prononcer à propos des différends qu'il y a pu avoir entre eux, comme certains peuvent être amenés à le faire. Et bien souvent, ils en arrivent par la suite à critiquer certains des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est le cas de ceux qui en viennent à se pencher et à se prononcer sur les différends qu'il y a pu avoir entre Muawiyah et Ali. Certains vont venir se fanatiser pour Muawiyah et vont ainsi porter atteinte à Ali, et d'autres vont se fanatiser pour Ali et vont ainsi porter atteinte à Muawiyah, alors que Muawiyah, c'est le scribe de la révélation qui a donc participé à la retranscription de la révélation, et que Ali, ses mérites sont bien sûr établis, et que parmi donc les compagnons il en est dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté du paradis, et que d'autres, il n'a peut-être pas attesté du fait qu'il entrait au paradis, mais il a fait mention de leurs nombreux mérites. Donc il convient d'avoir une bonne opinion d'eux, de ne pas nous prononcer à propos des différends qu'il y a pu avoir entre eux, et il convient donc que nous leur cherchions les meilleures des excuses, et que nous cherchions à avoir vis-à-vis d'eux les meilleures des opinions.
والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. إذا أطلق كلمة ولي الأمر فالمقصود به العلماء، علماء الشرع والأمراء. وما هو الواجب علينا تجاه ولاة الأمر؟ ما هو الواجب علينا تجاه ولاة الأمر؟ معتقد أهل السنة والجماعة يجب علينا طاعتهم في المعروف، طاعتهم في المعروف والدعاء لهم وإكرامهم وإكرام والكف عن شيء من عيوبهم، الكف عن شيء من عيوبهم ومثالبهم ومناصحتهم، ومناصحتهم ممن يملك النصيحة والدفاع عنهم. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، كما قال الإمام أحمد بن حنبل وفي رواية الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر. وكما قال تعالى قبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهؤلاء الولاة الأمر يحتاجون إلى الرفق ويحتاجون إلى النصيحة في السر، أما النصيحة على المنابر فهذه تسمى فضيحة، وبين الناس هذا يسمى طعن، ويسمى خروج باللسان، والخروج بالفعل قبله خروج باللسان، تحريض والحاكم الفلاني فيه كذا والولي فيه كذا، ولي الأمر فيه كذا وكذا. وتجد هذا الشخص الذي يطعن في ولي الأمر تجده هو قد لا يصلي حتى الصلاة، وقد لا يحافظ على الصلاة، وإن صلى تجد عنده صلاة الفجر شهر كامل ما يصليها، وتجده يطعن في هذا ويتكلم على العالم الفلاني إلى آخره، وهو مقصر في نفسه. فكيف يتغير هذا الحاكم وهو هذا الشخص مقصر؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وذكر العلماء منهم ابن تيمية أنه قال: 60 عاما مع إمام جائر أو بإمام جائر خير من ليلة بدون إمام. وكما جاء في الحديث: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، لأن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولأن بوجود الحاكم تحفظ الأعراض والأموال وتؤمن السبل، ورأينا الآن وشاهدنا ما يحصل في العالم العربي من المظاهرات ومن الخروج على الحكام وما حصل وترتب عليه من المفاسد. سبب ذلك أنهم خالفوا نصوص الكتاب والسنة وكلام العلماء، فحصل ما حصل ما يسمى بالربيع العربي، وهو ليس ربيع، فحصل فيها قتل وسفك للدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال ومفاسد عظيمة، مفاسد عظيمة كله بسبب الخروج على الحاكم. ومن أهان سلطان الله أهانه الله يوم القيامة. نعم، طبعا خالفوا من في هذا الباب؟ الخوارج خالفوا في هذا الباب، فيعتبرون الخروج على الحاكم عبادة عندهم وجهاد شرعي، وهذا يسمى خروج.
L'auteur, rahimahullah ta'ala, et là on arrive à la fin du prologue, il dit donc qu'on doit obéir aux imams, chefs des musulmans, aux gouverneurs, tant à ceux qui sont chargés de les gouverner qu'à leurs savants ulama. Donc ici le cheikh explique que le terme wali al-amr, ce terme lorsqu'il est utilisé, il sous-entend deux choses, ulama al-shara, c'est-à-dire les savants dans la religion, et théologiens, les umara, c'est-à-dire ceux qui dirigent et qui gouvernent, qui ont l'autorité. Quelle est notre obligation, quelles sont nos obligations envers les gouverneurs, les gouvernants musulmans? Ahl sunna, ils ont comme obligation d'obéir dans le bien, dans le convenable, d'invoquer en faveur des gouverneurs, ikramuhum, c'est-à-dire le fait de les valoriser, de les respecter, al-kaffu an uyubihim, le fait de ne pas évoquer leurs handicaps ou leurs défauts et, ou leurs péchés, également le fait de ne pas les critiquer, munasahatuhum, le fait de les conseiller pour ceux qui en sont capables et qui en ont les moyens, le fait de également les défendre. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, et dans une autre version l'imam al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah ta'ala, a dit que si j'avais une invocation à propos de laquelle j'ai la certitude qu'elle serait exaucée, eh bien je l'aurais réservée spécifiquement et intégralement pour le gouverneur. Spécifiquement et intégralement pour le gouverneur. Et avant la parole de l'imam Ahmed et avant la parole de l'Fudayl ibn Iyad, la parole d'Allah, dans le verset 59 de la sourate An-Nisa, la sourate numéro 4, les femmes, le sens, ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux, qui, et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Donc le conseil se fait dans le secret le plus total et ne pas utiliser les manabir, les chaînes, les chairs, pardon, de sermons où on fait des cours, où on proclame des choses pour critiquer les gouverneurs, pour chauffer la foule, pour inciter les gens à se rebeller contre le gouverneur, car tout ceci amène à quoi? Al-Khuruj. Khuruj al-Hakim, c'est-à-dire le fait de se rebeller contre les autorités. Et avant de se rebeller, on utilise d'abord la langue, Khuruj bil-lisan, c'est-à-dire qu'on commence d'abord par la critique pour arriver justement à cette rébellion. Et donc, ce n'est pas une manière d'agir qui est conforme avec la voie des gens de la sunna. Et tu trouves parfois des gens qui agissent de la sorte ou qui parlent du gouverneur tout le temps et de manière répétitive, alors que peut-être il ne fait même pas la prière. La prière, la salat, il ne la fait pas. Et s'il fait la prière, tu tombes sur des gens, pendant un mois, de manière consécutive, il ne fait pas la prière de Al-Fajr, il la rate à chaque fois. Donc, comment changer le gouverneur alors que l'état de la nation, l'état de ces personnes est de la sorte? Et Allah a dit dans deux passages du Coran, « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Allah ne changera pas l'état d'un peuple jusqu'à ce que le peuple change son état. Et l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit 60 ans avec un gouverneur qui est injuste envers Ra'iyya, c'est-à-dire envers les gens, envers son troupeau, si on pourrait appeler ça comme ça, c'est préférable que de passer une seule nuit sans gouverneur qui dirige. Et il a été dit également que l'application d'une sentence est mieux que 40 matins qui sont pluvieux et qui seront profitables pour tout le monde. Donc, vous voyez bien ce qui s'est passé ces dernières années, ces derniers temps, dans les pays arabes, suite à la rébellion qu'il y a eu contre les différents gouverneurs, les conséquences qu'il y a eu derrière tout cela, suite au fait de ne pas avoir respecté les principes et les préceptes religieux à ce propos, les manifestations qui ont été mises en place, les rébellions, les tueries, ce qu'on appelle le printemps arabe, qui n'est pas du tout un printemps, car il y a eu des tueries, il y a eu beaucoup de sang qui a coulé, l'honneur a été bafoué, des vols en masse, des pillages un peu partout, tout ça suite à la rébellion contre les gouverneurs. Et dans le récit, il est cité, ou dans le hadith, que celui qui avilit le gouverneur d'Allah sur terre, Allah l'avilira.
واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم هذا معتقد أهل السنة والجماعة ومنهجهم أن السلف الصالح هم الذين يقتدى بهم الذين يقتدى بهم والسبب في ذلك لأنهم ما غيروا وما بدلوا وماتوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم فنتبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح لأنهم هم الذين يعني تلقوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا به وناصروه وآزروه ووقفوا معه عليه الصلاة والسلام والاستغفار لهم يعني الدعاء لهم للسلف الصالح لهم حق علينا أن ندعو لهم ندعو للسلف الصالح لأنهم هم الذين أوصلوا لنا هذا الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين بلغوه فيجب علينا أن ندعو لهم ونشكرهم على هذا العمل الذي قاموا به نعم
في الأوتر Comme le fasse miséricorde a dit, et il est impératif de suivre les pieux prédécesseurs et de leur emboîter le pas et de demander pardon pour eux. Donc ici, l'auteur a exposé le fait qu'il soit impératif de suivre la voie des pieux prédécesseurs de cette communauté. Et la cause de cela, c'est qu'ils n'ont rien changé à la religion, ils n'ont rien modifié à la religion, mais ils ont plutôt puisé leur savoir religieux du messager d'Allah, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue. Également donc, nous avons pu voir que l'auteur a dit qu'il convient de demander pardon pour eux, c'est-à-dire demander pardon pour les pieux prédécesseurs de cette communauté qui, après le décès du messager d'Allah, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue, ont transmis sa religion de vérité.
هذا من منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يجادلون في الدين والجدال على نوعين جدال مذموم وجدال ممدوح الجدال المذموم هو الجدال في دين الله عز وجل وهو الجدال في نصرة الباطل هذا يسمى جدال مذموم ولا يجوز الدخول فيه والجدال الممدوح هو ما كان في نصرة الحق والرد على أهل البدع والرد على أهل البدع فهذا من الجدال المحمود والممدوح والذي يحمد عليه صاحبه بل قد يكون واجب عليه أن يجادل وأن يبين بالتي هي أحسن وبالطريقة الحسنة إذا حسنت النية وصدق مع الله عز وجل سوف ينصر ويعان بإذن الله أما إذا كان هدفه المغالبة أو أن يظهر أو أن يكون يعني يتصدر أو ما إلى ذلك فقد يخذل ولذلك قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن ولا يخفى علينا مناظرات العلماء مع أهل البدع هي كثيرة جدا وكذلك القرآن الكريم رد على أهل الكفر وعلى اليهود والنصارى وغيرهم في القرآن الكريم فالمناظرة إذا كانت بالحق وفي نصرة الحق هذا شيء طيب نعم
Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, donc, continue en disant on doit éviter les disputes de mauvaise foi et les controverses de parti pris en matière de religion, ce qu'on appelle mira et jidal. Donc ça, c'est les voix, la voix des gens de la sunna et du consensus. Jidal se décompose en deux parties. En deux sortes. Il y a le jidal qui est mauvais, donc en matière de religion, et qui est utilisé pour secourir le tort, le faux, et le soutenir. Et on a le jidal, donc la dispute ou la discussion constructive, qui est bonne, ou le jidal qui est bon, et qui est donc pour secourir et soutenir cette fois la vérité et la religion, telle que la réplique et la rétorque aux adeptes des innovations, Ahl al-Bida'. Donc, il se peut même que ça atteigne le degré d'obligatoire, que le jidal s'impose, et c'est une obligation d'agir de la sorte. Mais toujours, il faut garder à l'esprit que ceci doit être fait d'une bonne manière, avec la bonne expression. Il faut être sincère dans sa démarche et non pas être quelqu'un qui recherche juste, qui cherche juste à vaincre l'adversaire, à prendre le dessus, à avoir le dernier mot. Comme Allah a dit dans le Coran, وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِهِ أَحْسَنْ, comme on associe dans le verset 125 de la sourate, numéro 16, النحل, les abeilles. Et ce passage est dans différents passages du Coran, c'est à titre d'exemple, et discute avec eux de la meilleure façon. Et discute avec eux de la meilleure façon. Et vous voyez dans le Coran qu'il y a des répliques sur les juifs, des répliques sur les chrétiens et autres, avec des passages argumentés et établis d'une bonne manière.
وترك ما أحدثه المحدثون لله در هذا المؤلف بن أبي زيد القيرواني فقد ختم هذا المتن بالحث على التمسك بالمنهج السلفي وبالمقابل التحذير من أهل البدع وختم هذه الجملة وترك ما أحدثه المحدثون يعني أهل البدع استنباطا من قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود على صاحبه وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فصاحب السنة الصافي النقي يبتعد عن كل بدعة صغيرة أو كبيرة ولا يتهاون في هذا الباب لأن هذا دين يتمسك بما كان عليه السلف الصالح ويحذر من البدع يحذر من جميع البدع ولا يميع ولا يتهاون ولا يتساهل ومن أخطأ في هذا الباب إن كان خطأه معلن فيرد عليه علنا وخاصة إذا كانت في منتشرة في الكتب أو الأشرطة أو غير ذلك فإن الحق لابد أن يبين كما أن البدع انتشرت كذلك يجب أن تنشر السنة وإن كان الخطأ بين شخص أو يعني على مستوى خاص أو كذا فإنه ينصح ولا يشهر به ولا يشهر به وأيضا إذا كان هذا الرجل إما أن يكون داعي إلى بدعته وإما أن لا يكون داعي إلى البدعة فإن كان داعية ففي هذه الحالة يحذر منه ولا يشترط النصيحة لأن أهل البدع الذين ينشرون البدعة ويدعون إليها غالبا لا ينتصحون ولا يجادلهم طالب العلم الصغير لا يجادلهم ولا يناظرهم ولا إنما يحذر منهم وإن كان غير داعي إلى بدعة فهذا ينصح ويوجه لعل وعسى هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب في هذا الباب نعم
Puis l'auteur a dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Et il est impératif de délaisser ce que les innovateurs ont pu inventer en matière de religion. Donc ici l'auteur il a clôturé cette introduction en incitant au fait de se cramponner à la voie des salafs et en mettant en garde contre les différentes voies de l'innovation. Et ce, à la lumière de textes prophétiques, notamment cette parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Quiconque instaure dans notre religion ce qui n'en fait pas partie se le verra rejeté. » Et également le prophète alayhi salatu wa sallam avait pour habitude de dire « Aimez-vous des choses nouvellement inventées en religion, car toute chose nouvellement inventée en religion est une innovation. Toute innovation en religion est un égarement, et tout égarement mène en enfer. » C'est pour cela donc que l'adepte fidèle de la sunna se doit de s'écarter de toute forme d'innovation, qu'elle soit petite ou grande, et il ne fait en aucun cas preuve de laxisme face à cela. Et il n'hésite pas à diffuser ou à chercher à diffuser la sunna et à réfuter aux erreurs s'opposant à cette dernière, surtout si ces erreurs sont apparentes et propagées. Par contre, si une erreur est commise dans un cercle restreint, alors ils vont rectifier cela dans un cercle restreint, mais si cela est commis d'une manière apparente et que cela est propagé, eh bien ils n'hésitent pas à réfuter cela de manière apparente et propagée également. Concernant les partisans de l'innovation, il faut savoir qu'ils sont de deux catégories, ceux qui appellent à leurs innovations et ceux qui n'y appellent pas. Et concernant donc ceux qui appellent ouvertement à leurs innovations, il faut savoir qu'il est impératif de leur répliquer et que cela doit être fait de manière ouverte et qu'en aucun cas cela n'est conditionné par le fait qu'au préalable il faille conseiller ces gens-là, car il est connu que ces gens-là reviennent très rarement de leurs innovations.
قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا ونحن نقول كما قال المؤلف وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة يلحقهم هذا الفضل وهذا الثناء وأزواجه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين فمن سبهم أو تكلم فيهم أو طعن فيهم فهذا قد شابه الرافضة الذين يسبون أمهات المؤمنين وذريته يعني بناته الطاهرات وبنيه يدخلون في هذا الكلام فختم المؤلف بهذه العبارة وسلم تسليما كثيرا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وفي الأخير أتقدم بالشكر بعد شكر الله عز وجل على عدة نعم النعمة الأولى أن اجتمعنا بكم ورأيناكم وجلسنا معكم والنعمة الثانية أننا تدارسنا هذا العلم والنعمة الثالثة أننا ختمنا هذا الكتاب والنعمة الرابعة أننا عرفنا معتقد أهل السنة والجماعة وعرفنا ما يقوله أهل الفرق وأهل البدع من أجل أن نحذر ما يقوله أهل الأهواء والبدع فهذه نعم والحمد لله متعددة وإن كان حصل عليكم تعب فبعضكم جاء من أماكن بعيدة وعانى وتعب فهذا إن شاء الله فيه أجر عظيم وخير كبير والإنسان وإن حصل له هذا فليصبر وليحتسب والرحلة من أجل طلب مسألة واحدة كما فعل أحد الصحابة حينما اشترى بعيرا ورحل من المدينة جابر بن عبد الله اشترى بعير سمع أن عبد الله بن أنيس عنده حديث ما سمعه فاشترى بعير وانطلق من المدينة إلى الشام على البعير يعني ما في سيارة ولا طائرة ولا في الصحراء وما إلى ذلك جلس شهر كامل ذهابا وشهر كامل إيابا من أجل حديث واحد وصل إلى بيت عبد الله بن أنيس دق عليه الباب خرجت الخادمة فقالت من فقال لها قولي له جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج عبد الله بن أنيس يجر إزاره من الفرح وكان صديقه فسلم بعضهم على بعض فقال له سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كذا وكذا فأخبره بالحديث ثم رجع قافلا إلى المدينة تعرفون لا يخفى عليكم ما وجده جابر بن عبد الله من العناء والتعب وإلى آخره ومع ذلك صبر من أجل حديث واحد فأنتم ولله الحمد إن كان حصل عليكم من عناء ومن تعب فإن شاء الله بأجره وتثابون عليه إذا حسنت النية وإن شاء الله أنتم كذلك ما جاء بكم إلا الرغبة والنهم في طلب العلم أشكر لكم هذا الحضور وأعتذر أنا على الإطالة لأني مضطر أن أكمل هذا المتن فأنا أول من يستفيد أسأل الله عز وجل أن يثيبكم ويجزيكم خير الجزاء على تجشمكم الصعاب وعلى قدومكم وأسأل الله عز وجل أيضا أن ينفعنا بما علمنا وأن يجازينا على هذا العمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ فواز خير الجزاء على ما قدم، وجعل الله ذلك في ميزان حسناته، ونشكره على هذا الشرح الطيب المختصر السهل الهادف من خلال شرحه المقدمة، والذي تناول فيه مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة ليقرب الفهم للمبتدئ وليلخص القول للمقتدي، فحصل النفع وتم المقصود بإذن الله الرؤوف الودود. فجزاه الله خيرا وشكر له سعيه، وبارك الله فيه وفي علمه وفي جهوده، كما نشكر الإخوة المترجمين على ما بذلوه من ترجمة لتقريب المعنى لإخوانهم عملا بقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لنبين لهم وليبين لهم. كما نشكر الحاضرين على صبرهم وحرصهم على العلم والاستفادة. وموعدنا معكم بإذن الله عز وجل غدا إن شاء الله في لقاء آخر ومحاضرات أخرى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
L'auteur رحمه الله تعالى conclut donc ce prologue en disant qu'Allah répande ses bénédictions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdullah, sur sa famille, ses épouses, sa postérité, et qu'il leur accorde généreusement le salut. Donc ici, on termine par la même chose, par les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, conformément à ce qu'il a dit: celui qui prie ou qui me passe les salutations une fois, Allah les passera sur lui ou à son égard ou à son profit 10 fois. Et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ses suiveurs, al-al hum l'atba', jusqu'à la résurrection. Et l'azwaj, ce sont ummahat al-mu'minin, les mères des croyants, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui les insulte ou qui parle sur elles, ou yata'an fihim, c'est-à-dire qui se permet de s'exprimer mal à leurs propos, aura une ressemblance très considérée et très considérable avec al-rafida, avec la secte des rafida. Quant à la postérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ses enfants, garçons et filles. Et donc louange à Allah, alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Donc louange à Allah à travers duquel yani sont bien faits les bonnes choses se prennent yani fin. Donc le cheikh dit après cela: je tiens à remercier Allah pour le bienfait qu'il nous a accordé, les différents bienfaits qu'il nous a accordés, notamment le fait qu'on a pu s'asseoir en votre compagnie et que l'on vous a vu, le fait qu'on a pu étudier ensemble cette science religieuse profitable, inshallah, le fait qu'on a pu terminer ce prologue dans toute son intégralité, le fait que l'on a pu connaître aujourd'hui la croyance qui est juste et qui est conforme, ainsi que différents aspects des croyances qui sont fausses et qui sont erronées. Malgré la fatigue, malgré que beaucoup d'entre vous viennent peut-être d'endroits, de villes, de villages, qui sont même certains frères d'autres pays, qui viennent de loin, mais la récompense, elle est grandiose auprès d'Allah pour celui qui vient et qui patiente. Et vous n'êtes pas censé ignorer que le fait de voyager dans le but d'étudier la science religieuse, ne serait-ce que de connaître un seul point et de l'assimiler, mas'ala wahida, le fait de rechercher cela, il y a une grande récompense derrière, comme ceci est rapporté du compagnon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, qui a acheté un chameau et qui est parti voir le compagnon Abdullah ibn Unais. Il est parti de Médine jusqu'au pays du Proche-Orient, le pays du Cham. Tout ça à la recherche de la confirmation d'un hadith seulement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'époque, comme vous le savez, ni voiture ni avion, mais il a dû traverser donc Sahara, les endroits, les étendues déserts qui sont longs, un mois de voyage à l'aller, un mois de voyage au retour, tout ça à la recherche d'un hadith. Quand il est arrivé dans le pays du Cham, il allait toquer chez Abdullah ibn Unais radiyallahu anhu, et la servante est sortie à demander qui est-ce. il lui a dit, appelle Abdullah ibn Unayn, et dis-lui que c'est Jabir ibn Abdullah, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Unayn radiyallahu anhu s'est empressé de sortir, yajurru izarahu min al-farah, c'est-à-dire que il traînait son vêtement pour s'empresser de sortir et d'aller voir le compagnon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu al-jami'. Et donc il lui a demandé confirmation par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu un hadith qui est il passe, yani par la chaîne de rapporteurs qui passe par toi et attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la personne qui a une attention sincère et qui malgré cela patientait sur la fatigue, patientait sur ses assises, a une bonne récompense à la condition qu'il ait une intention qui est saine et qui est sereine. Et donc le cheikh tient à vous remercier pour les efforts que vous avez fournis et la soif que vous avez du fait d'apprendre et de perfectionner vos connaissances. Et il s'excuse en même temps au passage pour le fait d'avoir été un peu long dans les interventions, mais il fallait impérativement terminer et clôturer donc ce prologue. Et il dit, le premier qui tire profit de ces assises, c'est moi-même. Ensuite il a terminé par des invocations. Ensuite notre frère Rachid Jazarullah Khairan qui a adressé encore une fois les remerciements au cheikh pour l'explication qu'il a fait de manière en même temps courte et en même temps profitable, qui a été profitable et qui a enseigné à celui qui ignorait ces choses-là, et en même temps qui est un bon rappel et une bonne réévocation de ces points de la croyance pour celui qui les connaissait déjà. Et dit donc demain il y aura encore une journée d'apprentissage et d'enseignement à ne pas rater, tout comme il a remercié donc le frère qui nous a aidé dans la traduction, les frères qui sont venus, qui ont écouté, qui ont participé. Et il dit donc notre rendez-vous est demain inshallah ta'ala. Demain le premier cours sera à 10h avec une intervention de Cheikh Abdel Hadi sur l'explication de l'hadith de l'Irbad ibn Sariya, qui est un hadith très important dans la religion, qui est le hadith numéro 28 dans l'Arba'in Nawawiya. Donc première intervention sera inshallah ta'ala à 10h le matin ici même. Et les frères également vous transmettent que le buffet est ouvert après salat al-isha. On va monter faire la prière inshallah de l'isha. Après, ceux qui veulent manger, ce sera ouvert. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه هذا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم